Bonjour Pascal.
Bonjour Camille.
Tu vas bien?
Oui, ça va.
Je suis ravie d'être avec toi. Est-ce que tu pourrais me dire quel est ton métier?
Alors mon métier actuel, c'est de promouvoir une culture que j'aime énormément et un pays qui est mon deuxième pays, mon pays de cœur, la Russie. Voilà, de différentes manières. J'avais une galerie, donc j'ai une clientèle qui me connaît depuis très longtemps, à laquelle j'envoie des nouveautés russes régulièrement par mail ou qui me retrouvent sur des expositions parce que je crée des propres expositions. Je mets en scène soit dans des musées, soit dans des lieux d'exposition que les partenaires me confient et je mets en scène ma Russie à ma manière. Voilà, c'est ça mon métier en fait aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui, dans les rencontres, dans les études, dans les métiers que tu as eus peut-être précédemment, t'a amené à faire le métier que tu fais aujourd'hui?
Alors moi, ça remonte à très 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 loin, puisque en quatrième, c'est-à-dire en 69, j'ai choisi russe comme deuxième langue vivante. Mon lycée le permettait. J'ai dit à mes parents que je trouvais ça très original. En fait, à l'époque, oui, c'était ça, c'était original, alors ça me tentait. Mes parents n'ont pas du tout refroidi, au contraire, ils m'ont dit pas pourquoi pas. Et j'ai adoré cette langue. J'ai eu un coup de foudre d'abord pour la langue. On avait une prof absolument géniale qui adorait les Russes, qui nous l'a enseignée de façon extraordinairement vivante. Et je sais pas, j'ai adoré. Très peu de temps après, j'ai demandé à mes parents si je pouvais aller voir les gens qui la parlaient. Et encore une fois, ils ne m'ont pas dit non. Ils m'ont dit, écoute Pascal, si tu crois. Donc j'ai débarqué en Union soviétique à l'époque, et en 71. Donc il y a déjà 46 ans que je fréquente les Russes. Et c'est vrai que ça a été le fil rouge de ma vie. La Russie n'a jamais été bien loin. Voilà, de fil en aiguille, j'ai quitté mes premiers métiers pour m'orienter vers ce que je fais aujourd'hui.
Selon toi, quels sont les avantages, les inconvénients, les challenges de ton métier? L'idée, c'est de comprendre un peu plus ta vision de ce métier et ce que tu fais aussi dans ton quotidien.
Les challenges ne sont pas propres à mon métier à moi. Je crois que c'est le fait d'être indépendant. C'est vrai que c'est un contexte de travail qui demande... Moi, je dis toujours, j'appelle ça de l'énergie. On peut l'appeler ça autrement, mais je trouve que ça demande beaucoup d'énergie parce qu'en fait, tu dois te booster toi-même. Tu dois te secouer toi-même. Tu dois te nourrir toi-même. Et c'est vrai que les autres sont très enrichissants. Donc, il faut créer ces contacts. Alors, les grands avantages, moi, je suis quelqu'un d'assez indépendant. Donc, c'est vrai de se créer son cadre de travail, de se créer son orientation. Personnellement, moi, je trouve ça très, très valorisant, très enrichissant. C'est vrai aussi, pour être très honnête, qu'il y a des fois, j'aimerais, entre guillemets, avoir un boss, j'aimerais avoir une sécurité, même si je ne suis pas une fan de ce mot, mais de salaire. Parce qu'en fait, quand tu es indépendant, tu ne sais pas du tout ce qui va rentrer. Des fois tu as des très très bonnes surprises, des fois tu as du stress maximum. Voilà, mais moi je crois qu'il faut toujours essayer de positiver. C'est quand même objectivement ce qui correspond le plus à ma personnalité.
Quelles sont selon toi les qualités personnelles ou les compétences qu'il faut pour faire ce métier?
Alors moi j'ai une expression qui fait rire des fois. Je la dis, mais bon. Il faut bien s'entendre avec soi-même. Il faut très bien s'entendre avec soi-même. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on est, quand même beaucoup, beaucoup seul. Alors après, le chemin permet de rencontrer des gens qui, par exemple, alors dans mon cas, ce sont des artistes, ce sont des décorateurs, qui en fait sont capables de faire, en fonction de ce que tu leur transmets, de ce que tu leur montres, racontes, de faire... Alors, soit en sculpture, soit en peinture, soit en maquette, ce que toi, tu aurais fait si tu savais faire. Et ça, c'est formidable. Parce que finalement, ce que toi, tu as dans ta tête, moi, je crée dans ma tête et tout. Et après, tu le vois, alors, soit sur le papier, soit en sculpture. Et ça, c'est une chance formidable. voilà, il faut aussi savoir capter ces gens avec qui tu vas pouvoir travailler sur des projets. Il faut aussi beaucoup de... peut-être de lâcher prise, dans le sens où il faut effectivement relativiser. Parce que dans la mesure où tu es tout seul quand même, pas mal tout seul, t'as pas, par exemple, comme dans une équipe que tu rejoins tous les matins, avec envie ou sans envie, sans certains matins, t'as pas ceux qui vont te mettre un coup de pied aux fesses, t'as pas celui qui va te dire, oh, écoute, top, ce que t'as fait, c'était génial, etc. Tu vois, donc il faut aussi lâcher prise, dire, bon, c'est pas grave, ça va se régler, ça va passer, parce que finalement, dans un premier temps, c'est toi qui reçois tout. Alors, les compliments, les bons côtés, mais aussi... tous les ratés, tous les problèmes, toutes les contrariétés. Voilà, donc il faut aussi apprendre à relativiser.
Du coup, depuis que tu as commencé à travailler, comment est-ce que tu as fait évoluer ton métier et quel est aussi l'avenir que tu lui vois? L'idée, c'est de comprendre si c'est un métier d'avenir, quelque chose qui existera toujours.
En fait, moi, j'ai déjà changé plusieurs fois de vie parce que quand j'ai créé ma première société, enfin ma première structure personnelle, j'étais encore dans le monde de la banque et de la finance. Donc, j'étais consultant international. Je travaillais sur le marché russe quand il a implosé et qu'on a pu travailler en direct pour des partenaires. Donc, à l'époque, c'était des banquiers, des institutions financières. Et puis, parallèlement, j'ai toujours été très curieuse de ce que les Russes créaient et... comme c'était une époque où ils s'exprimaient, des fois par force parce qu'ils avaient perdu leur travail, des fois par plaisir parce qu'ils avaient envie de montrer leur talent. Donc parallèlement à cette activité financière, de conseil, etc., je me suis intéressée à la culture. J'ai commencé par faire des mini-expositions au départ pour donner du travail à mes amis russes. Donc j'emmenais des tas d'objets dans mes sacs et je les vendais ici pour leur assurer, entre guillemets, des débouchés. Puis de fil en aiguille, je me suis dit, ces objets sont magnifiques, ils méritent autre chose. Et comme en fait, je me sentais beaucoup plus en harmonie avec cette partie de mon activité qu'avec la partie bancaire, je me suis dit, les banques ne vont pas me manquer. Donc tout doucement, je me suis glissée vers ça. Et puis après, je me suis dit, oh, ces objets sont magnifiques, ils méritent quand même autre chose que d'être trimballés dans des sacs et tout. Donc j'ai créé ma galerie. Puis parallèlement, j'ai développé une activité d'exposition. Parce que ben, j'ai eu envie de montrer ces objets ailleurs, j'ai eu envie de raconter ma Russie, de la mettre en scène. En fait, si tu veux, naturellement, parallèlement, il s'est toujours créé quelque chose. Parce que moi, je sentais un besoin, je trouvais que j'étais à l'étroit, qu'il y avait moyen de faire autre chose. Donc l'activité d'exposition, je ne l'avais pas anticipée. Elle s'est créée, en fait, en parallèle. Et là, aujourd'hui, ben, je travaille autrement, puisque je n'ai plus de galerie. Et c'est vrai que pour une autre page de vie, je me verrais bien ouvrir un musée russe.
Et du coup, ça reste un métier d'avenir, parce que la culture...
Ben, moi je crois, et si tu veux, Camille, moi ce qui me fait plaisir, c'est que sur mes expositions, ou sur les marchés de Noël, où je rencontre les gens, je vois bien ce que ça fait aux gens. Tu as des gens, par exemple, qui ne me connaissent pas, qui vont juste m'acheter une pièce et qui me demandent avant de partir s'ils peuvent m'embrasser. Sur les expositions, j'ai des gens qui ont les larmes aux yeux, des enfants qui sont émerveillés. On a besoin de ça, ça fait un bien fou. Tu sais, c'est Dostoïevski qui a dit, c'est la beauté qui sauvera le monde. C'est tellement vrai. Les gens ont tellement besoin de ces voyages-là. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on veille à préserver ça. Et je vois bien quand je fais des petites conférences, tu sais, dans les écoles, où je suis avec les enfants, ou quand j'avais des enfants à la galerie, je vois bien ce que ça procure chez eux. Il faut commencer très tôt, il faut les amener dans ce monde à s'étonner d'autres choses, tu vois.
Comment tu définirais ton équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il te convient?
En fait, ça c'est aussi un des aspects. D'ailleurs, quand tu travailles en indépendant, c'est très imbriqué. Alors ça, c'est aussi quelque chose dont il faut savoir se protéger, parce que des fois, tu travailles à la maison. Donc c'est vrai que des fois, les enfants ne comprennent pas que leur maman travaille. Mais en fait, moi, c'est mon histoire. Ça, c'est Aujourd'hui, moi, c'est très imbriqué parce que de toute façon, la Russie, c'est ma vie. C'est souvent quelque chose qui m'a été dit par les clients ou mes rencontres. On me dit, vous faites très sincère. Mais je dis, oui, mais c'est ma vie que je vous raconte. C'est ma vie, quelque part, que je mets en scène. Donc, si tu veux, moi, aujourd'hui, je ne fais pas vraiment de différence.
Ton métier, c'est ta vie.
Oui.
C'est ton métier aussi.
Alors bon, c'est vrai que ça a des inconvénients, il faut se protéger quand même. Mais tu vois, par exemple, même des fois, quand je vais en Russie, que bon, ben, pour des raisons ici, on dirait que tu es fatiguée, tu sais, moi, je vais en Russie, des fois, les clients me disent, oh, on aimerait bien que vous nous emmenez, tu sais, c'est des rythmes. Ils s'imaginent que je suis en vacances, mais pas du tout. Mais d'un autre côté, quand tu rencontres des gens que tu aimes, comme Irina, ou que tu vois des choses magnifiques, tu es au boulot, certes, mais ça t'apporte tellement. Que tu joins, mais alors 100 fois l'utile à l'agréable, tu vois. Donc moi j'essaie de me polariser là-dessus. Donc je fais pas vraiment de différence.
Ce que je voulais aussi comprendre, c'est en quoi ton métier donne un sens à ta vie.
Ben, comme je te l'ai dit, j'ai compris en regardant en arrière que c'était mon chemin de vie. Ouais. La Russie fait partie intégrante de ma vie. Mes amis russes me disent souvent que j'ai dû être russe dans une précédente vie. C'est fort possible, je ne me suis jamais sentie étrangère. Et je crois que finalement, bah, j'avais quelque chose à raconter sur ce pays. Donc, je suis toujours revenue. J'ai été banquière, en Russie, j'ai été consultant et j'ai travaillé sur le marché russe qui avait implosé. Et puis, bah, c'est la culture russe que j'ai envie de raconter. Donc, la Russie, c'est mon fil rouge à moi.
Quel est, selon toi, le facteur déterminant pour être épanoui dans son métier?
Pour être épanoui dans son métier, moi, enfin, dans sa vie, parce que pour moi, c'est très lié, il faut être en harmonie avec soi-même.
C'est la clé.
Moi, pour moi, oui. C'est tôt ou tard, de toute façon, on le paye.
Ouais.
On le paye. C'est comme dans sa vie privée, d'ailleurs. Quand on se demande ce qu'on fait là, quand on demande pourquoi on prend ce train, quand on demande pourquoi on prend cette route, c'est qu'il y a quand même un souci. On n'est pas à sa place, oui. Et je crois que c'est fondamental. Sinon, ben, on se contraint. Je pense qu'on se rend malade d'une manière ou d'une autre. Et puis on joue aussi. On triche, c'est pas beau ce mot, parce que les gens ne trichent pas, mais ils se trompent, eux, en fait. Et je trouve que, finalement, à la fin d'une vie, je crois que c'est un... Enfin, moi, personnellement, c'est quelque chose dont je serais fière. J'ai pas renié la petite Pascale. Elle a choisi russe par hasard, parce qu'elle avait pas d'attache, elle avait pas d'ascendant russe. Mais en fait, elle a fait le bon choix. Donc, voilà, je crois que c'est ça qui est important.
Comment est-ce, alors sur 10 ou qualitativement parlant, quel est pour toi l'impact de ton métier sur ton bonheur?
Je pense que l'impact est fort, hein, parce que je te dis, j'ai des moments forcément de doute, de stress, et puis où j'en ai ras-le-bol, c'est trop, etc. Mais j'ai aussi des moments de bonheur, de partage, et de fou rire. Quand des enfants disaient à leur maman, on va voir la gentille dame et tout ça, je me dis, c'est mignon. On va voir la gentille dame, maman, on va voir la gentille dame. Je me dis, bon, bah tiens, pour certains enfants, je suis la gentille dame. Ça fait du bien. Non, enfin, moi, c'est largement positif. Très largement. Je suis très largement...
Et si tu devais inspirer les gens qui regarderaient cette interview à choisir ce métier ou un métier qui soit un peu similaire, si tu devais parler peut-être à toi il y a quelques temps ou à une classe d'élèves, qu'est-ce que tu leur dirais pour les inspirer?
Je leur dirais que c'est beau, c'est agréable, c'est très nourrissant de travailler dans l'esthétisme, de travailler entouré de belles choses, de travailler entouré de beaux matériaux. comme le bois, par exemple, c'est un matériau extraordinaire de voir ce que les artistes sont capables d'en faire. Je trouve que la beauté, l'esthétisme, tout ça, et puis la créativité des artistes qui engendrent la variété, c'est extraordinairement nourrissant, ressourçant. Donc moi, je conseillerais de s'entourer... Ben oui, de s'entourer de beau. Alors le beau, il a plein de formes. C'est des belles personnes, c'est des gens avec qui t'es bien. Tu te forces pas. C'est pas fou. Tu vas les voir parce que t'es content de les revoir. Moi, je crois que... Enfin, il y a une question qu'il faut arrêter de se poser, c'est pourquoi je suis là. À partir du moment où tu te poses la question pourquoi je suis là, c'est qu'il y a un souci. Moi, j'encouragerais les gens. Alors, c'est peut-être pas bien comme encouragement. Mais je crois qu'il faut être, enfin, il faut s'écouter. Et je répète ce que je disais tout à l'heure, si on te dit que t'es fou, si on te dit mais c'est n'importe quoi, je crois qu'il faut continuer à se poser des questions. De toute façon, les questions, elles ne sont pas venues par hasard. Ouais. C'est que t'es pas en phase quelque part. Donc, faut t'écouter. Si les gens te disent que t'es fou, c'est peut-être juste aussi, parce que moi, on me l'a souvent dit, qu'ils n'ont pas le courage de faire ce que tu vas entreprendre, alors ils te disent que tu es fou ou ils te disent que tu as de la chance quand ça marche. Et puis, ben, ce qui est bien aussi quand on a le courage de prendre des décisions qui, sur le coup, font peur, ben, c'est qu'après son chemin de vie, on en est l'auteur. Donc moi, il y a une citation que j'aime beaucoup.
C'est parfait, c'est ce que j'allais te demander.
Voilà,
si tu avais une citation pour
voilà, et des fois je dis, ne désespérez jamais, laissez juste infuser davantage. Voilà. Donc en fait, quand on se pose ce genre de questions, c'est pas par hasard. Il faut surtout pas désespérer, parce que quand on est en harmonie avec soi-même, ben, je crois que les rencontres sont là. Voilà, il faut juste laisser infuser davantage. Des fois, on a l'impression que ça va pas assez vite, mais voilà, laissez infuser davantage. Et prenez ce oui, ben les nouvelles idées, ou des fois il y a un petit chemin que vous n'aviez pas vu, quelqu'un va vous aider à le voir, et puis ce quelqu'un vous inspire, alors finalement ce virage, ben vous osez le prendre, et puis d'un seul coup, il y a un truc qui se résout, quoi. Voilà, laissons infuser davantage.
Merci beaucoup.
Merci Camille.